France Info. 21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Bonsoir, un changement de nom, mais peut-être pas d'ADN au Front National. Une tension, c'est le mot, entre François Hollande et Emmanuel Macron au sujet de la Syrie. Et un bras de fer entre l'Élysée et le Parlement sur le rythme des réformes et la procédure législative. Voilà donc pour le menu dans les grandes lignes de Tout est politique jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT sur France Info avec nos invités. Eliane Assassi, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes sénatrice PCF de la Seine-Saint-Denis, présidente du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au Sénat. J'ai tout juste.
Juste.
Merci.
Parfait.
Bonsoir à vous, Sébastien Chenu, et
bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes député du Nord du Front National et porte-parole du FN. Bonsoir à vous et bienvenue, Jean-Baptiste Djebbari.
Bonsoir.
Député La République en marche de Haute-Vienne. Et à mes côtés, mon complice, bonsoir Gilles Bornstein.
Bonsoir Jean-François Aquili.
Bienvenue Gilles, éditorialiste à France Info. Vos réactions, comme d'habitude, c'est sur hashtag TEP sur Twitter. Merci. Alors, il n'aura pas tenu bien longtemps. Davy Rodriguez démissionne du FNJ, le Front National de la Jeunesse. Et ce, après la vidéo qui a fait le tour du web, elle montre votre assistant parlementaire, Sébastien Chenu, tenant des propos racistes à l'encontre du videur d'un établissement de nuit de Lille. Retour sur la vidéo qui avait été mise en ligne samedi soir.
Sur cette vidéo amateur postée hier sur Twitter, on voit deux hommes qui tentent de calmer Davy Rodriguez, le numéro 2 du Front National Jeunesse et assistant parlementaire de Sébastien Chenu. L'altercation est évitée, mais très vite, la parole dérape.
Calme-toi, t'as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver.
Et selon le vigile, les insultes racistes vont continuer.
Sébastien Chenu, qu'est-ce que vous inspire ces images? C'est votre assistant, enfin ce fut votre assistant parlementaire?
Oui, moi je suis très choqué par ce type de propos. Ma vie, mon engagement témoigne de la lutte contre un certain nombre et toutes, d'ailleurs, les discriminations. J'étais très choqué, c'est un garçon qui vient du Front de Gauche, qui nous a rejoint il y a plusieurs années, aucun problème. Il a démissionné de l'ensemble de ses fonctions.
Y compris du Front National?
Oui, oui, non, de l'ensemble de ses fonctions. Et d'ailleurs, je note que chez nous, évidemment, la sanction tombe vite quand il y a un dérapage. Hein. Il n'a pas eu le temps de passer en commission de discipline. C'est-à-dire qu'en fait, il n'attend pas la sanction. Il a considéré qu'il devait partir parce que effectivement, ce type de propos ne sont pas acceptables. On a une ligne qui est assez dure là-dessus. On n'accepte pas ce type de propos et on n'acceptera jamais. C'est la ligne de Marine Le Pen depuis son élection.
En même temps, jusqu'à il y a 10 minutes ou jusqu'à il y a quelques heures, vous aviez un assistant parlementaire capable de proférer ce genre de propos. Pour un parti qui se dit dédiabolisé, c'est quand même assez inquiétant.
Oui, vous savez, je n'aurais pas l'indélicatesse de faire la liste des parlementaires même, et non pas des assistants parlementaires, qui ont eu des propos déviants, et ils sont dans tous les partis politiques, sans aucune exception. La bêtise est probablement la chose la plus répandue au monde. Elle irrigue probablement tous les partis de la même façon. Chez nous, la sanction tombe immédiatement.
Mais il vous a donné des explications, Davy Rodriguez?
Il dit ne pas bien se souvenir de ses propos. Je crois que les images nous font comprendre la raison pour laquelle, ce qui est une circonstance non pas atténuante mais aggravante, il ne se souviendrait pas de ses propos, puisque je pense que la soirée était visiblement arrosée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est inacceptable, il n'y a pas d'ambiguïté, et moi je ne peux pas accepter d'avoir un collaborateur qui se tienne ainsi, évidemment, et qui ait ce type de propos. Ça ne correspond pas au sens de l'engagement que j'ai pour mon pays.
Eliane Assassi, commentaire sur cet événement?
Écoutez, moi je trouve que c'est... très grave. Je rappelle quand même que le racisme est un délit dans notre pays. Et donc, ce monsieur a proféré des insultes racistes à l'égard d'une autre personne. Et puis, j'apprécie pas le fait qu'on puisse renvoyer à d'autres des responsabilités. J'ai écouté le discours de Marine Le Pen hier et j'ai cru entendre quand même que sa principale cible était aujourd'hui l'étranger, le migrant. Donc il y a une certaine, il y a quand même une certaine cohérence. Si. Attendez, les migrants doivent reprendre l'avion. Excusez-moi, ça, ce sont des propos racistes. Et donc il y a une certaine cohérence entre. Mais je ne suis pas à la France insoumise, monsieur.
Non, c'est trop facile. Vous n'êtes pas quand ça vous arrange.
Non, je n'ai jamais été.
Les propos de Monsieur Marchais. Les propos de Monsieur Marchais sur l'immigration.
C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous avez un collaborateur qui a tenu des propos racistes.
Vous êtes dans
le parti
de Georges Marchais. Vous voulez que je rappelle,
madame, sous le coup de la loi
de Georges Marchais.
Et donc, et Madame Le Pen, dans son discours, n'a pas cessé de vilipender les étrangers. Donc, il y a une cohérence.
Pour être exemplaire, pour donner des leçons, il faut être exemplaire. Alors, vous êtes dans le parti de Georges Marchais. Voulez-vous que je rappelle les déclarations de Monsieur Marchais? Vous y êtes depuis suffisamment de temps pour l'avoir évidemment connu sur les étrangers. Donc, je pense que lorsqu'on a eu ce genre de leader politique dans son parti, on s'abstient de faire la leçon aux autres.
Vous n'avez pas une connaissance assez fine du Parti communiste français.
On va entendre quand même la réaction de Jean-Baptiste Djebbari pour La République En Marche.
Non, mais ce qui interroge et ce qui inquiète, c'est l'ambiguïté de ce parti-là. Et on le voit au travers même du nom et du symbole et du logo. Et ça a permis justement de s'y repencher. Le Rassemblement National Populaire, vous savez, c'était un rassemblement
C'est pas mon mouvement.
C'était un parti collaborateur de l'entre-deux-guerres, des années 40,
en
de Marcel Guerre.
Votre slogan Marche, Pétain.
Le symbole même de la flamme, vous le savez, c'est une référence explicite
Vous vous rendez compte de ce que vous dites
parti.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites? La France en marche, c'est un slogan du maréchal Pétain. Vous me voyez en train de faire un amalgame vous concernant?
Et par ailleurs, les pratiques politiques, au-delà du symbole, du nom, des références esthétiques au parti, au-delà de ça,
le rassemblement pour la République,
les discours d'exclusion, les discours de haine, les discours racistes restent l'apanage.
Non, mais c'est des caricatures. C'est des mots quand on n'a pas d'argument. Ça, ce sont des mots quand on n'a pas d'argument.
Mais
un mot, puisqu'on est sur ce sujet. Par exemple, un député de La République En Marche qui fracasse son adversaire politique et qui l'envoie dans le coma.
Il est exclu du parti.
Combien de temps La République En Marche a-t-elle mis à exclure de ce parti?
Exclu du parti.
Combien de temps?
Aucune justification.
Combien de temps? La commission défense. Combien de temps vous avez mis? Dites-nous, monsieur Djebbari.
Combien de temps vous aurez des gens?
Combien de temps avez-vous mis?
Combien de temps vous ferez marche sondage?
Ne soyez pas mal à l'aise. Combien de temps avez-vous mis à exclure ce monsieur à tourner autour du pot?
Il est parti, il n'y reviendra pas.
Au bout de plus
vous,
de 15 jours.
Vous avez des gens chez vous.
Alors,
qui font commerce.
Le problème, c'est pas l'exclusion, ce sont les propos.
Racistes.
Arrêtez. Vous êtes caricaturaux. Vous avez mis beaucoup de temps à exclure un député de La République En Marche qui a failli envoyer à la mort un adversaire politique.
Ça manque quand même pas de sel d'inverser le rôle sur ces sujets.
Nous allons poursuivre ce débat, si je puis dire, autour du Front National, de cette nouvelle appellation et de l'avenir de ce qui se passe à droite et à la droite de la droite. Mais tout d'abord, 21h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Marie Rouarche.
Xavier Rodriguez démissionne de toutes ses activités politiques. Réaction du numéro 2 du Front National de la Jeunesse à la plainte déposée contre lui. Aujourd'hui, le vigile d'un bar lillois l'accuse d'insultes à caractère raciste. Une vidéo de l'altercation circule sur les réseaux sociaux. Xavier Rodriguez dit ne pas vouloir causer de tort au Front National. 6 mois après le passage de l'ouragan Irma, le gouvernement prend de nouvelles mesures pour aider à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'aide atteint désormais 370 millions d'euros. Le coût total des dégâts provoqués par l'ouragan est lui estimé à près de 2 milliards d'euros. Annick Girardin, fraîchement accueillie à Mayotte, la ministre des Outre-mer fait quelques propositions pour sortir l'île de l'insécurité. Davantage de forces de l'ordre, un état-major pour lutter contre l'immigration clandestine. Des sous-mesures prises dans l'urgence, selon le collectif qui pilote la contestation. Il dénonce une mascarade. La Maison-Blanche exprime son indignation après l'empoisonnement d'un ancien agent double russe au Royaume-Uni. Empoisonnement dont la Russie est très probablement responsable selon Theresa May. La première ministre britannique donne d'ailleurs 24 heures à Moscou pour fournir des explications. La Russie dénonce le cirque de Theresa May et une provocation. Martine Aubry condamne fermement les débordements qui ont émaillé la fin du match de Ligue 1 entre Lille et Montpellier ce week-end. La maire de Lille déplore sur Twitter les agissements de quelques supporters qui déshonorent notre club et le foot en général. Le LOSC a porté plainte pour violence aggravée et menace de mort proférée à l'encontre de certains de ses joueurs.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Merci Marie. Alors voilà donc Rassemblement National, cette nouvelle appellation pour le Front National qui va être soumise aux électeurs du FN, mais qui sent un peu le réchauffer, n'en déplaise à Sébastien Chenu, puisque Jean-Marie Le Pen l'utilisait déjà il y a une trentaine d'années, en 1986, pour son groupe fort de 35 députés. Le désormais ex-président du Front National a parlé ce matin sur France Inter d'assassinat politique au micro de Léa Salamé.
Je trouve désastreux que l'on abandonne le nom de Front National, car c'est un repère inimitable et incontournable.
Le Rassemblement National, c'est un nom qui a été utilisé par vous-même en 1986.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que ça n'apporte rien de nouveau, mais le fait que ça ne s'appelle plus Front National, c'est un véritable assassinat politique.
Sébastien Chenu, que répondez-vous au cofondateur du FN? C'était en 1972, une vieille histoire. Qu'est-ce que vous lui dites?
Je réponds d'abord que le monde a changé. Aujourd'hui, on a deux blocs. D'un côté, ceux qui soutiennent une Europe ultralibérale, qui sont des mondialistes, qui soutiennent une France nomade, qu'incarne Emmanuel Macron. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont encore attachés à la nation, qui pensent que la France, avec ses modèles de protection, valent le coup d'être défendue. Nous, on souhaite les rassembler, le rassemblement national, parce qu'effectivement, nous mettons la nation au centre de tout. Ça permet aujourd'hui, dans cette nouvelle configuration, de dire ce que nous sommes devenus et ce que nous aspirons à devenir.
Pourquoi ne pas avoir essayé de changer carrément de nom, parce que ça rappelle quand même ce qu'était le FN d'avant?
Parce que nous considérons que l'idée de nation est vraiment ce pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour notre nation, ça déplaît peut-être à certains, c'est peut-être un gros mot à l'oreille de certains autres, mais nous nous battons pour notre nation et nous rassemblons celles et ceux qui, de gauche ou de droite, ont envie de faire le chemin avec nous.
Jean-Baptiste Djebari, vous êtes un nomade de la vie politique, alors...
Ouais, mais je suis assez fasciné en fait par ces discours et ces partis populistes qui en fait ont toujours quelque part trois contradictions. La première, c'est qu'ils défendent toujours l'idée qu'ils rejettent les élites et le FN ou le RN maintenant est quand même la quintessence du parti népotique sur trois générations. Ça devient quand même une performance. Ensuite, il y a toujours ce mythe du parler vrai, et on a bien vu parfois le parler vrai de Marine Le Pen, elle s'écrase sur le mur de l'incompétence politique, CF, le débat
pas
du second
de
tour,
je veux
du deuxième
pas
tour.
Délicat, vous
c'est une leçon, c'est un constat en
vous
tout cas qui est
première intervention
assez
à l'Assemblée,
bien partagé.
Jean-Baptiste, vous
aucun
vous
problème, pas le
bon,
même.
Voilà.
Écoutez,
voilà.
Je pense qu'on n'est pas tout à fait au même niveau.
Voilà.
Et ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Et le troisième, et c'est plus inquiétant en fait, les populismes, ils prétendent toujours défendre le peuple, ils sont toujours un ennemi. Et en l'occurrence, rappelez-vous, le poujadisme, le boulangisme, l'ennemi, c'était le juif. Et là, l'ennemi du FN, il est identifié, il est clair. Alors c'est un peu l'Europe, et c'est beaucoup l'islam. Et ça, c'est très explicite chez vous, et c'est très gênant. Quand vous donnez des leçons en fait d'antiracisme,
c'est vrai. Nous combattons l'Union européenne et c'est vrai, nous combattons les politiques migratoires. Nous considérons que et l'Union européenne et les politiques migratoires qui sont menées et elles sont d'ailleurs liées amènent le malheur dans notre pays. Nous le considérons. Nous avons d'ailleurs le droit et nous sommes d'ailleurs 35% des Français à le considérer, voyez-vous. Donc mépriser cela, c'est une chose, faire des comparaisons hasardeuses en est une autre, mais il faudra vous y habituer, un tiers des électeurs français qui considèrent que nous avons raison.
Eliane Assassi, je vous vois sourire.
Oui, non, parce que je pense qu'il faut un petit peu revenir à la genèse des choses. Les partis populistes, s'appuient sur le rejet des élites politiques sur celles et ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc c'est là-dessus que c'est un terreau sur lequel effectivement grandissent des forces dites populistes et qui utilisent le peuple comme paravent pour mettre en avant un certain nombre de propositions avec, je le dis toujours, comme pivot l'étranger, pas que l'islam, l'étranger, l'islam bien évidemment, mais pas que.
C'est
pas qu'une question de religion. La question des réfugiés n'est pas qu'une question de religion. Donc on rejette complètement l'étranger. Mais ce que je veux dire, c'est que le populisme a du sens et des contenus et qu'il faudrait peut-être revenir justement sur le sens et les contenus de ce populisme sur lequel surfe bien évidemment le Front National aujourd'hui, Rassemblement National.
Gilles Bernstein.
Mais moi j'ai eu le sentiment que c'est un peu, on ne change pas une équipe qui perd le Front National, parce que vous avez une candidate qui a montré en tout cas une certaine limite pour conquérir.
C'est votre analyse toujours un peu partisane.
Mais elle l'a montré.
Voilà, c'est votre analyse qui est un peu partisane.
En tout cas, elle n'a pas gagné l'élection présidentielle. Elle n'a pas gagné l'élection présidentielle. À un moment, elle était à 27-28 dans les sondages. Elle a fait beaucoup moins. Et puis, il y a eu le débat. Tout le monde sait, donc, il y a une certaine limite. Vous ne changez pas vraiment de ligne politique. Voilà, il y a juste un changement de nom. Et je ne vois pas comment avec ce...
Regardez même la petite flamme.
Je vais juste poser ma question. Je ne vois pas comment avec ce seul changement de nom, ce qui est minoritaire peut devenir majoritaire. Voilà, je ne vois pas les ressorts.
Ici même, à cette table, on m'a dit il y a quelques mois, c'est incroyable, vous passez la sortie de l'euro à la fin de votre programme alors que c'était le début de votre programme. Vous changez tout. Et aujourd'hui, on me dit, vous ne changez rien. La réalité, c'est une continuité. Nous nous transformons. Nous sommes passés d'un parti politique qui, effectivement, en 72, est un parti de contestation à un parti d'opposition et demain un parti de gouvernement. C'est l'évolution naturelle d'un mouvement politique.
Qu'est-ce qui va faire que vous allez gagner maintenant?
Plusieurs choses. D'abord, je crois que les Français valident la plupart de nos propositions en matière, justement, d'immigration, en matière de défense.
vous fait dire ça
pour l'ensemble des sondages.
Pour l'instant, elle prend des sondages aujourd'hui.
Les derniers sondages indiquent que les Français considèrent qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. Nous considérons aussi. Non, pas du tout. Ensuite, nous abordons d'autres sujets. Nous allons aborder d'autres sujets. La souveraineté numérique, voyez-vous, c'est un sujet qui me semble excessivement important. Non, mais c'est un sujet d'avenir. Eh bien, nous sommes les seuls à l'aborder.
Évidemment, la nation pose problème aux élites.
Sébastien Chenu. On est confronté à un mur de haine et à une campagne de haine, campagne médiatique que vous relayez évidemment régulièrement.
Sébastien Chenu, vous dites rassemblement, c'est-à-dire appel du pied à d'autres formations, on va dire au hasard à droite. L'ancien ministre Les Républicains Thierry Mariani dans le JDD, c'était hier, et ce matin sur CNews avec Jean-Pierre Elkabbach, s'est dit favorable à un rapprochement avec le Front National. Laurence Salier, porte-parole des Républicains, lui a répondu ce matin dans Territoire d'Info sur Public Sénat. On écoute l'un et l'autre et vous réagissez après.
Je ne suis pas au Front National ni au Rassemblement National. Je fais simplement un constat qui est de dire aujourd'hui les Républicains ont retrouvé une ligne politique. Est-ce qu'un jour on pourra avoir une majorité tout seul et est-ce qu'il ne faut pas regarder quelle alliance on peut éventuellement ou quel rapprochement avoir.
Nous ne serons jamais d'accord avec le Front National. Nous sommes très clairs sur le sujet. Qu'elle tende la main à qui elle veut, nous ne sommes pas intéressés. Ce n'est pas un parti de gouvernement. Nous n'avons rien en commun avec le Front National, absolument rien. Je sais bien que plusieurs voudraient écrire cette histoire, mais ce n'est pas une histoire qui va se produire, mais je peux vous l'assurer.
Vous allez vous rassembler avec qui, en fait ?
Non, mais là, c'est intéressant d'entendre deux responsables des Républicains avoir exactement une position antagoniste. Ce sera intéressant de savoir, en réalité, ce qu'ils veulent faire. Nous sommes déjà alliés à certains moments de notre histoire, avec DLF, au moment, en tout cas, avec Nicolas Dupont-Aignan, avec le CNIP, qui est plus vieux.
Hein.
Non, mais nous n'avons pas été seuls, toujours. Ces dernières années, nous avons été capables d'être soutenus par d'autres. Nous allons continuer. Mais il ne vous a pas échappé que le jeu politique a un peu évolué. Et moi, je ne crois pas aux histoires d'appareil. C'est-à-dire qu'effectivement, les leaders des Républicains n'ont pas envie de faire le chemin avec nous. Oui, mais nous, est-ce qu'on a envie de faire le chemin avec des gens qui ne sont pas sincères? Parce que le positionnement de Laurent Wauquiez aujourd'hui, il est marqué du sceau de l'insincérité. Il adapte un discours en fonction de ce qu'il pense être porteur. Donc nous nous adressons aux électeurs, aux militants. C'est pas très grave, c'est une habitude au parti communiste de ne pas toujours comprendre.
Mais n'y allez pas avec l'insulte, s'il vous plaît, parce que vous ne me connaissez pas.
Merci,
je
madame.
Ne me laisserai pas insulter.
Merci madame,
d'accord,
je ne vous ai pas insulté madame. Vous me dites que vous ne comprenez rien, je vous dis que ça ne
m'étonne
pas.
Rien.
Allez,
ça
ne m'étonne pas.
On va respirer un petit peu, on va souffler un petit peu. Il est 21h20 sur France Info, le retour de l'info avec vous Marie Rouarche.
Theresa May ne prend plus gants, elle pointe la responsabilité très probable de la Russie dans l'empoisonnement de l'ancien agent double Sergueï Skripal. Son argument, l'agent utilisé a été mis au point par la Russie. La première ministre britannique donne 24 heures à Moscou pour fournir des explications sous peine de représailles. La Russie parle d'une provocation du Royaume-Uni. L'heure est venue d'agir. La communauté internationale tente de faire pression sur la Syrie et ses alliés. La France appelle la Russie à faire cesser le bain de sang dans la Ghouta orientale et les États-Unis s'apprête à réclamer devant l'ONU un véritable cessez-le-feu dans l'enclave rebelle où plus de 1100 civils ont été tués en 3 semaines. À Mayotte, pas sûr que la visite de la ministre des Outre-mer parvienne à sortir l'île de la crise. Annick Girardin a bien fait des propositions aujourd'hui pour rétablir la sécurité des Mahorais. Davantage de forces de l'ordre, d'argent pour la vidéosurveillance notamment, mais pas de quoi satisfaire l'intersyndicale qui dénonce des sous-mesures inefficaces sur le long terme. David Rodriguez ne veut pas causer de tort au Front National. Il annonce sur Twitter démissionner de toutes ses activités politiques quelques heures après le dépôt d'une plainte pour injure à caractère raciste à son encontre. L'ex numéro 2 du Front National de la Jeunesse se dit horrifié des propos choquants qu'on lui attribue. Le public des festivals d'été ne verra pas Bertrand Cantat sur scène. L'ancien chanteur de Noir Désir renonce pour, dit-il, mettre fin à toutes les polémiques. Des lettres ouvertes, des pétitions contre sa programmation 15 ans après la mort sous ses coups de sa compagne Marie Trintignant.
France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Alors cette Europe vit effectivement une montée des populismes. Gilles Bornstein évoquait à l'instant le cas de l'Italie. Alors les chiffres, hein, c'est les législatives. Hein, 30% pour le mouvement 5 étoiles fondé par Beppe Grillo. 37% pour la coalition et la marche. C'est la Forza Italia de Berlusconi, la Liga et Fratelli d'Italia. Donc c'est quand même un chiffre élevé. Y a-t-il un risque de voir une majorité eurosceptique, et oui, s'installer au prochain Parlement européen? Oui, selon Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, invité du grand rendez-vous de CNews Europe 1.
Il y a un risque. Peut-être pour la première fois. Pourquoi ? Parce que au fond, l'Europe n'a pas tenu la première de ses promesses, qui est de protéger les peuples européens. De les protéger, non pas en faisant du protectionnisme à l'ancienne, mais de les protéger face à la mondialisation, de les armer, de les éduquer, de les former pour pouvoir justement faire face aux défis et aux mutations du monde économique contemporain. Cette promesse-là n'a pas été tenue par l'Union européenne. C'est l'une de ses grandes faillites. Et l'élection de 2019, ce sera, évidemment, d'un côté, il y aura un front eurosceptique, et de l'autre, il ne faut pas qu'il y ait les euros béats, il faut qu'il y ait les euros réalistes.
Ah, Jean-Baptiste Djebbari, on n'est plus euro-béat, on est euro-réaliste. C'est un petit changement, un petit glissement sémantique.
Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Enfin, le paradoxe, c'est que la France est devenue un peu un îlot européen dans une Europe qui se fragmente et qui a des tentations, d'une part des démocraties libérales qui sont à l'œuvre, par exemple en Hongrie ou en Pologne, et d'autre part illibérales, c'est-à-dire qui ne respectent plus, par exemple, la séparation des pouvoirs. Mmh. Et c'est très clair en Hongrie et c'est très clair en Pologne. Et d'autre part, des sécessions qui sont plus territoriales, régionales, avec la Catalogne. Mais partout, on voit ces populismes s'exprimer avec toujours cette même rhétorique qui prétend incarner la face rurale, anticapitaliste, le rejet de la modernité. Et on voit bien que c'est, ouais, cette rhétorique-là, elle bute à des impasses, parce que bien des sujets économiques, la lutte contre l'immigration, justement, la lutte contre le terrorisme, la sécurité, sont des sujets qui ne peuvent trouver des réponses efficaces qu'à l'échelle régionale. Et quand je dis régionale, j'entends européenne.
Éliane Assassi, est-ce que vous, au Parti communiste, vous souhaitez cette espèce de future assemblée européenne un peu eurosceptique, pour ne pas dire europhobe?
La crainte existe. Je veux dire, c'est une réalité. On regarde ce qui se passe en Italie, en Hongrie, en Autriche, voire même au-delà des frontières européennes aux États-Unis. Et effectivement, on peut craindre le pire. Mais je le redis, tout ça s'appuie sur une colère, un désespoir face aux échecs des politiques qui n'ont pas été mises en œuvre lors des précédents quinquennats, que ce soit celui de Nicolas Sarkozy ou celui de François Hollande. Donc la droite et la social-démocratie ont en fait c'est un constat d'échec de leur politique
De leurs représentants.
Oui, bien sûr,
qui est évident.
Donc moi je pense qu'il faut reprendre le chemin d'une construction européenne, effectivement politique, économique, sociale, qui place les gens, Madame, les citoyens et les citoyennes de cette Europe au cœur des problématiques. Or, ils ne se sentent pas concernés, d'où effectivement des dérives d'eurosceptiques ou de rejet de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais moi, je vais vous le dire, je crois à l'Europe. Moi, je crois à une Europe solidaire, une Europe égalitaire et une Europe qui a comme préoccupation aussi la paix dans le monde.
Gilles Bernstein.
La corrélation entre réussite des politiques et montée du populisme n'est pas faite. On l'a bien vu, on l'a cru pendant un certain temps. Le populisme monte en Italie, qui allait mal économiquement. Il est monté en Autriche, en Scandinavie, des pays où les taux de chômage sont très faibles et qui vont très bien économiquement. Donc, j'aimerais que votre explication soit vraie.
Ce n'est pas que la question économique. La question sociale est importante.
Donc,
aussi.
Absolument.
La question sociale est importante.
Moi, je ne comprends pas la politique que mène En Marche, puisque vous nous dites c'est un échec et il faut plus d'Europe. Donc, en général, si c'est un échec, c'est qu'il n'en faut pas davantage. Je crois que ça fait des années, en réalité, que les peuples européens essayent de se faire entendre et disent « ça ne marche pas, on ne veut pas de cette Europe-là, elle nous broie, ce sont des échecs ».
C'est un discours binaire.
Et d'ailleurs, ils ont voté contre. Les Français ont voté contre. On leur a quand même dit, eh bien, ça continuera. Et puis, après, on s'étonne qu'effectivement, il y ait des gens qui menacent l'Union européenne, qui la contestent, etc., qui soient élus. Mais c'est normal. Vous êtes en échec. Vous le reconnaissez et vous dites, on continue. On avance dans le mur en klaxonnant. Les gens veulent être considérés, veulent une Europe des nations. Le déclin économique. Matteo Renzi, pourquoi il est battu? Pour deux raisons. D'abord, pour les problèmes économiques, pour la politique qu'il mène à l'intérieur de son pays. Le fameux Macron, le Matteo Renzi, le fameux Macron italien, il s'effondre complètement parce qu'il n'a pas de résultat et parce qu'il applique une politique qui est dictée par l'Union européenne qui rend les Italiens malheureux. Et il y a le problème migratoire. Même Emmanuel Macron reconnaît que c'est un échec total de l'Union européenne. Et vous nous dites il faut continuer. Ça n'a pas de sens.
Réponse Jean-Baptiste Djebbari. Il reste quelques secondes avant le journal.
D'un exemple, parce que c'est un discours binaire. Or, L'économie, parlons d'économie. L'économie qui est ouverte à la concurrence internationale. Prenons l'aviation. Le transport aérien, il est européen. Aujourd'hui, le dumping social et fiscal, il est l'échec des politiques nationales. Si demain, on avait plus de politiques européennes, on arriverait à faire des statuts des personnels européens.
C'est exactement la même chose sur les étrangers. C'est exactement la même chose sur les étrangers.
Mais n'ayez pas ce discours binaire qui consiste à faire de tout un problème national et de toute solution... une fermeture, un repli sur soi, ça ne marchera pas plus.
Du tout.
Et par ailleurs, c'est ce que vous prenez depuis 30 ans.
Vous nous dites que vous êtes en échec et vous donnez une leçon qui est de continuer.
Complètement non plus. Hein.
Allez, on marque une pause.
Il faut prendre un tournant.
Oui, bien sûr.
Allez, on marque une pause. 21h28 sur France Info. La météo, le rappel des infos et on se retrouve juste après.
7h, 9h. La matinale de France Info.
Un nouveau jour se lève.
Bruce Toussaint.
L'actualité média, Céline Bayle-Darcourt.
Du côté de la Une, on s'inquiète face à l'érosion de ses audiences.
Des reportages.
Les jours qui passent n'ont pas entamé la détermination des Mahorais.
Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Bruce, bonjour à tous.
L'actualité sportive.
Début déjà réussi pour la numéro 1 française.
Avec Jean-Michel Apathy, l'invité de 8h30.
Bonjour Bruce Toussaint.
Chaque jour, Marie Colmand nous parle d'une personnalité qui fait la une de l'actualité.
France Info, 7h, 9h, 2 points. Ouvrez l'info.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, le rappel avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Une amélioration va se dessiner par l'ouest demain. En matinée, les averses seront encore nombreuses, de la Normandie aux Hauts-de-France, jusqu'en Alsace, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. De belles éclaircies domineront ailleurs avec plus de soleil autour de la Méditerranée. En revanche, sur l'extrême sud-est, le vent soufflera fort, dépassant les 100 km/h en Corse. Demain après-midi, éclaircies et temps sec gagneront vers la Normandie, le centre-val de Loire et l'Auvergne. En revanche, le ciel va devenir de plus en plus nuageux sur l'ouest-Bretagne, avec même quelques pluies possibles avant la fin de journée. Du bassin parisien aux Alpes du Nord jusqu'aux frontières du nord et du nord-est. L'après-midi sera encore émaillé d'averses, mais devenant moins fréquente. Côté température, les maximales resteront voisines des normales de saison. Prévoyez 9 degrés à Lille, Strasbourg et Aurillac, 12 degrés à Paris, Brest et Caen, 13 degrés pour Lyon et pour Tours. Mais il fera 16 degrés à Bordeaux, Toulouse et Toulon et 17 degrés à Marseille et Bastia. Enfin, attention sur les Alpes du Sud, le risque d'avalanche reste fort de 4 sur 5.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info, il est 21h30, toute l'info avec vous, Hugo Charpentier.
Bonsoir. La Russie montrée du doigt après l'empoisonnement en Angleterre d'un ex-agent double russe. Ce soir, Theresa May a pris la parole devant le Parlement britannique et la Première ministre a très clairement mis en cause Moscou. Selon elle, Sergei Skripal et sa fille, retrouvés inconscients le 4 mars dernier, ont été agressés au moyen d'un agent neurotoxique développé par la Russie. Explication Marina Daras.
D'après les informations qu'elle a obtenues par les services de renseignement britanniques, les Skripal ont bel et bien été empoisonnés par un agent neurotoxique militaire extrêmement fort, le Novichok, produit exclusivement par la Russie. Theresa May a donc réclamé des explications au président russe Vladimir Poutine et lui donne jusqu'à mardi soir pour se manifester et expliquer pourquoi un agent aussi puissant s'est retrouvé sur le sol britannique. Elle a déclaré que le Royaume-Uni examinerait la réponse du Kremlin avant de décider des mesures à prendre, mais a ajouté que s'il n'y avait pas de réponse crédible, le gouvernement britannique considérera qu'il s'agit d'un usage illégal de la force par l'État russe contre le Royaume-Uni. En plus de boycotter la Coupe du Monde de football, il pourrait y avoir de très lourdes conséquences diplomatiques telles que l'expulsion immédiate de l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni et la révocation des visas britanniques détenus par des oligarques liés au Kremlin. Il pourrait également y avoir des sanctions financières, notamment dans les secteurs de l'énergie et de l'armement qui sont gérés par des proches du président Poutine. À Londres, Marina Daras pour France Info.
Face à la progression des forces turques dans le nord de la Syrie, des centaines de civils ont fui aujourd'hui Afrin, cette ville qui se situe dans une enclave à majorité kurde. L'armée turque y mène depuis le mois de janvier une offensive pour en déloger une milice kurde qu'Ankara considère comme terroriste. La Syrie qui était au cœur des discussions aujourd'hui lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et notamment la région de la Ghouta orientale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé l'évacuation en urgence des civils. Les États-Unis ont quant à eux proposé une nouvelle résolution réclamant un cessez-le-feu. Il était le maître de l'élégance parisienne, Hubert de Givenchy, connu pour avoir lancé la maison du même nom, est mort samedi dernier à l'âge de 91 ans. Légende de la haute couture, Hubert de Givenchy a marqué marqué pendant 50 ans le monde de la mode par l'élégance de ses créations. Face à une contestation de plus en plus forte, Bertrand Cantat renonce à se produire dans les différents festivals organisés cet été. L'ancien chanteur de Noir Désir, condamné pour avoir tué sa compagne Marie Trintignan, dit vouloir avec cette décision mettre fin à toutes les polémiques. On le surnommait le comptable d'Auschwitz, condamné en 2015 à 4 ans de prison pour complicité dans la mort de 300 000 juifs. Le criminel de guerre nazi Oskar Gröning est décédé à l'âge de 96 ans. Il avait été recruté en 1942 pour travailler à Auschwitz. Oskar Gröning s'occupait notamment de comptabiliser les billets de banque confisqués aux déportés. Il est décédé à l'hôpital sans avoir commencé à purger sa peine. Il est quasiment 21h33 sur France Info. La suite de Toutes les politiques, Jean-François Aquili.
Tout est politique, Jean-François Aquili.
La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités Éliane Assassi, sénatrice PCF de la Seine-Saint-Denis, présidente du groupe communiste républicain, citoyen et écologiste au Sénat, avec Sébastien Chenu, député du Nord et porte-parole du Front National, avec Jean-Baptiste Djebbari, député de La République En Marche de Haute-Vienne, et avec Gilles Bornstein de France Info. Alors nous allons évoquer François Hollande qui fait la leçon à Emmanuel Macron, l'ancien président, dans une interview au journal Le Monde, faisant suite à des révélations du Parisien d'ailleurs, a semblé critiquer implicitement la politique syrienne de son successeur, François Hollande, qui réclame la création d'une no-fly zone, c'est-à-dire une interdiction de survol au-dessus de l'enclave kurde d'Afrine attaquée par les Turcs, et a regretté le dialogue avec la Russie. On va écouter les arguments de François Hollande et la réponse d'Emmanuel Macron piqué au vif lors d'une conférence de presse, de sa conférence de presse, au dernier jour de sa visite d'État en Inde.
Le sujet est de savoir comment nous devons réagir face à Vladimir Poutine, plus que face à Bachar al-Assad. On peut évoquer les relations historiques entre la France et la Russie, mais ce n'est pas une raison pour la laisser avancer ses pions sans réagir.
Je ne réagirai pas, tant il est vrai que dans la vie démocratique française, les rôles sont bien définis. Le président de la République a une responsabilité, et auprès de lui, le ministre des Affaires étrangères aussi. Et après, il y a, dans le cadre de la vie démocratique, des commentaires. Mais chacun prend ses responsabilités. Si vous voulez faire peur ou intervenir à des puissances qui décident de choix militaires, c'est d'intervenir militairement. La France n'interviendra pas militairement sur le sol en Syrie, je vous le dis très fermement. Et je crois que beaucoup de gens qui donnent parfois des leçons ont parfois eux-mêmes décidé la même chose, à juste titre.
Jean-Baptiste Djebbari, sans langue de bois si possible, il est dans son rôle, François Hollande?
Sans langue de bois, je crois qu'il n'est plus au gouvernement, plus en capacité de décider, de commander. Et donc, effectivement, ça s'apparente plus à un commentaire politique un peu polémique qu'à réellement un jugement sur l'action du président. Donc, le cadre est clair, les concertations, les discussions qui sont imparfaites et honnêtement assez inefficaces au niveau de l'ONU continue à être menée, et par ailleurs il y a une ligne rouge qui a été dressée s'agissant de la Syrie, qui est l'utilisation d'armes chimiques, qui honnêtement
vous avez lu ce qu'il en dit,
ouais, bien sûr, mais je pense
quand la ligne rouge c'est les armes chimiques, comme il faut du temps pour prouver leur existence, on n'intervient jamais. Et d'ailleurs il dit c'est ce qui s'était passé quand Barack Obama avait refusé l'intervention française.
Non mais c'est vrai, et je pense que c'est à la fois compliqué à avérer sur le terrain, et c'est effectivement du temps qui est un petit peu long pour mettre ça en œuvre. Et donc je pense qu'une clarification interviendra relativement rapidement, et c'était le sens du propos de Benjamin Griveaux hier.
Mais encore un mot, Jean-Baptiste Djebbari, il est dans son rôle, l'ancien président, quand il reçoit des représentants kurdes, est-ce que c'est une diplomatie parallèle?
Je crois que ça lui permet effectivement de mener un rôle un petit peu traditionnel, d'un ex-chef d'État un petit peu au-dessus des partis, au-dessus de la vie politique, et qui continue à...
C'est prévu quelque part, ça,
Sébastien Chenu?
D'autres reçoivent des Kurdes sans être ex-président de la République. Ça n'a pas de sens. Écoutez, moi, j'ai lu rapidement ce qui s'est dit dans un grand journal du soir, comme on dit. Bon, après, moi, je reconnais à François Hollande, ex-président de la République, de pouvoir dire des choses quand il pense qu'une situation est gravissime. Et elle l'est, ce qui s'est passé à Afrin ce week-end est scandaleux. Il y a eu quand même, je le rappelle, des centaines de civils qui ont été tués sous les coups de l'aviation turque. ce week-end, et que ceux qui ont été attaqués, ce sont effectivement des Syriens et des Kurdes. Donc, moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas raison. Il a tort de réagir comme il a réagi. Ce que nous attendons de la France aujourd'hui, ce sont des interventions pas militaires, mais il faut quand même que la France, l'Europe, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais les Nations Unies aussi interviennent pour dire stop à Erdogan. Et je pense que dans tout ça, la Russie a effectivement des responsabilités. Donc il faut en causer et essayer de peser, pas militairement, mais de peser par la voie diplomatique. Or, voilà, donc... Ouais. Hollande n'a pas tout à fait tort, mais Emmanuel Macron n'a pas eu raison de réagir comme il l'a fait
Sébastien
aujourd'hui.
Sébastien Chenu, vous partagez l'avis d'Éliane Assassi ?
Non, d'abord il y a la forme et le fond. Moi je crois que sur la forme, Hollande est ravi de donner un petit coup de griffe, non peut-être pas au président de la République, mais en réalité derrière à Jean-Yves Le Drian, dont il doit se dire que le fait qu'il quitte le Parti Socialiste mérite un petit coup de griffe, il y a certainement un petit règlement de compte derrière. Sur le fond, je trouve original mais intéressant qu'on entende le Parti Communiste ne plus soutenir la Russie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ça.
Mais c'est intéressant. Le monde a changé, comme vous disiez tout à l'heure, le monde a changé.
Et moi je suis plutôt sur la position du président de la République.
C'est quoi le fond là?
Je suis plutôt sur la position du président de la République. Je trouve qu'il a raison sur cette question et je pense qu'il a une position équilibrée.
Vous parlez de qui ?
Du président de la République, du président Macron.
Pro-russe, bien sûr. Qui sont d'accord.
Non, mais voilà. Vous disiez que je ne suis qu'un opposant. Je ne suis pas qu'un opposant. Je trouve que quand ça va dans le bon sens, il faut soutenir. Et si le président de la République fait quelque chose qui va dans le bon sens, et en l'occurrence, je trouve que ça va dans le bon sens, c'est apaisant, c'est plutôt intelligent de le faire ainsi, eh bien, je le dis.
Le Front National soutient des deux celui qui est le plus pro-russe ou le moins anti-russe, qui est dans la logique des choses. Sur l'intervention de François
Hollande. C'est dans l'intérêt de la France.
Moi, je suis partagé. Quand des gens qui n'y connaissent rien, pas l'on dit, ils y connaissent rien. Peu de gens en France ont eu l'expérience du commandement à haut niveau, ont envoyé des gens à la guerre. Il y a peu d'anciens présidents de la République. Je trouve que la parole d'un ancien président de la République qui sait de quoi il parle, c'est toujours intéressante. Et en tant que citoyen, si ces deux-là pouvaient arrêter de se chamailler tout le temps et plutôt mettre leur expérience au commun, c'est un peu naïf ce que je dis, je trouve que ça ne serait pas inutile. Et sur le fond, je suis d'accord avec vous sur les Russes, je suis aussi d'accord avec ce que dit François Hollande, le sort réservé aux Kurdes qui ont été nos alliés pour lutter contre Daesh.
Heureusement qu'ils étaient là.
Bien sûr. Alors, c'est facile de faire de la morale. Moi, je ne suis rien, je ne connais rien. Mais la façon dont on les abandonne à leur sort, c'est peut-être naïf, ça me choque.
Jean-Baptiste Djebbari, qui veut intervenir pour conclure là-dessus.
On est quand même dans un système de protection, de sécurité internationale qui est quand même assez inefficace et depuis très longtemps. Et donc, on voit se mettre en jeu, en tout cas, le jeu du droit et de la puissance. Et on voit bien que dans ces rapports-là, la France, qui, je trouve, est restaurée sur le plan international parce que le président Macron a été élu, et ça, je crois que personne ne pourra vraiment dire l'inverse, y compris nous, peinons à peser dans un conflit qui a fait 300 000 morts depuis 7-8 ans.
C'est
une faiblesse de l'Europe, c'est une faiblesse de ce monde un peu apolaire où finalement nous avons ce contexte qui est un petit peu vérolé et sur lequel personne n'arrive réellement à agir efficacement.
21h40 sur France Info, le retour de l'info avec Marie Rouarch.
Un prévenu du procès de la chemise arrachée défend une action symbolique. 12 salariés et anciens salariés d'Air France comparaissent en appel à Paris pour violence et dégradation. Les images de ces cadres de la compagnie chemise déchirée ont fait le tour du monde en octobre 2015. En première instance, 3 prévenus avaient écopé de peine de prison avec sursis. David Rodriguez n'est plus numéro 2 du Front National de la Jeunesse. Il n'exerce d'ailleurs plus aucune activité politique. Le jeune homme annonce sa démission sur Twitter quelques heures après une plainte à son encontre pour injures à caractère raciste. Un vigile lillois l'accuse de l'avoir traité de sale africain à l'issue d'une soirée arrosée. Faut-il déployer l'armée pour ramener le calme à Mayotte ? C'est l'avis de l'ancien secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer, Yves Jégot, sur France Info. L'île est paralysée par les grèves et les blocages routiers depuis 4 semaines. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a présenté quelques mesures aujourd'hui pour garantir la sécurité des Mahorais. Mesures immédiatement rejetées par les leaders de la contestation qui parlent de mascarade. Les bombardements se sont poursuivis aujourd'hui sur la Ghouta orientale en Syrie, au 23e jour de l'offensive de Damas sur ce fief rebelle. La France appelle la Russie à faire cesser le bain de sang. Elle estime que Moscou peut influencer le régime de Bachar al-Assad. Les États-Unis, eux, vont déposer une résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat. Il était surnommé le comptable d'Auschwitz. L'ancien SS Oskar Gröning est mort à l'âge de 96 ans. Il avait été condamné en 2015 à 4 ans de prison pour complicité dans la mort de 300 000 juifs, peine qu'il n'a jamais purgée.
France Info.
21h, 22h, tout est politique.
Jean-François Akili.
Allez, le sujet intéresse nos trois parlementaires présents. Y a-t-il trop de réformes en même temps? Alors j'ai noté SNCF, réforme constitutionnelle, lutte contre les violences faites aux femmes, baccalauréat, formation professionnelle, apprentissage, assurance, chômage, etc. Attention au trop-plein, prévient Jean-Claude Mailly de façon assez humoristique, le secrétaire général de Force ouvrière, invité aux 4 vérités sur France 2 ce matin.
À trop vouloir aller trop vite, il risque à un moment donné de faire le faux pas. Alors, vous savez, c'est comme ce personnage de dessin animé qui continue à courir quand il y a le vide en dessous. Quoi. Voilà, il prend des risques, c'est son problème.
Eliane Assassi, est-ce qu'il y a trop de... Ça vous fait rire, hein?
Oui, c'est penser aux coyotes.
C'est ça. Est-ce qu'il y a trop de réformes? Est-ce que le Parlement arrive à suivre, notamment au Sénat? Tu vas prendre le temps pour
Boucher les textes. Je ne sais pas s'il faut poser la question comme ça. Bon, qu'il y ait des projets de loi nécessaires à mettre en débat au Parlement, c'est une chose. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a en ce moment, on est dans une stratégie du zapping. C'est-à-dire qu'on nous propose une multitude de lois, surtout, sur lesquelles le Parlement ne peut pas prendre le temps de travailler sérieusement. Et donc, on passe des ordonnances prévues sur la réforme SNCF, à une révision constitutionnelle et institutionnelle, à une loi sur le logement. Bref, tout ça ressemble à de la cacophonie. Il n'y a pas de cohérence dans le projet politique qui nous est présenté par le gouvernement. Et j'ose dire que trop de lois tuent la loi. Et donc, ce qui crée des conditions pour que nos concitoyennes et nos concitoyens s'interrogent sur la nécessité d'avoir un nombre de parlementaires tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que la conséquence, elle est là aujourd'hui. Or, moi, je pense qu'il faut prendre le temps de fabriquer la loi. C'est nécessaire pour qu'elle soit la plus visible et la plus lisible par nos concitoyennes et nos concitoyens.
Ouais, Jean-Baptiste Djebari, trop de lois tue la loi, vous en faites trop?
Non, mais pas cacophonie, polyphonie certainement, et mise en action, mise en œuvre des engagements de campagne. Ça ne surprend personne. Et
non, c'est la réforme SNCF, c'était pas un engagement de campagne.
La réforme du système ferroviaire, c'était un engagement de campagne. Il n'y a pas marqué
non,
SNCF.
Non. Les ordonnances, ce n'était pas
qui, à ma connaissance, n'est que la SNCF en France. Non. Donc c'est tout à fait la réforme de ces grands services publics qui sont déséquilibrés et qu'on entend réformer. Et ensuite, je pense que pour faire des mesures dont on voit les effets utiles dans le quinquennat, il faut les faire tout de suite. Et je trouve que le programme, il est cohérent.
On fait la loi par opportunisme.
Mais le programme, il est cohérent. Les gens ont voté. C'est pas opportuniste. Les gens ont voté sur un projet présidentiel qui est clair, qui est explicite.
Je vais pas vous rappeler comment a été élu.
Et après, sur la fabrique de la loi. Juste d'un mot sur la fabrique de la loi. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est parfait. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, la fabrique de la loi, d'abord, c'est bavard. Le Parlement met du temps.
Mais non, le Parlement n'est pas bavard.
Un tiers des amendements sont des amendements de lobby. Et vous le savez, tout parti confondu.
Vous parlez de la réforme pour nos auditeurs.
Balayez devant votre porte, mais pas devant la
Si attendez, vous parlez de la réforme
si
du
vous
droit d'amendement.
Si vous parler les uns les autres, ça
voilà. Je parlais de la réforme constitutionnelle. Et quand Mme Assassi disait que la réforme est inutile parce que le Parlement fonctionne bien, non, le Parlement ne fonctionne pas bien. On passe des textes de façon extrêmement récurrente et redondante dans les mêmes commissions, plusieurs fois, jusqu'à 5 fois. Encore une fois, un tiers des amendements sont issus des lobbies, et vous le savez, comme moi, et c'est des amendements idiotiques qu'on va prendre. On a moins de discussions, moins de problèmes avec le FN, puisqu'ils ne passent pas beaucoup, et donc on a moins d'amendements venant de leur côté.
Sébastien Chenu,
je trouve
mais
que...
Mais nous, on a une pratique militante, c'est pour ça qu'on intervient beaucoup au Parlement.
Vous devriez arrêter de donner le son, vous avez déposé 5 amendements depuis que vous êtes élu. Vous regarderez sur le site nosdéputés.fr combien d'amendements j'ai déposés. Je l'ai vérifié ce matin. Vous avez déposé. Alors, ça vous a pas probablement beaucoup fatigué de construire la loi.
Mais le débat ne doit pas tourner autour du nombre d'amendements que chacune et chacun dépose.
Mais vous donnez des leçons. Le premier signataire. Balayez devant votre porte.
Arrêtez de vous renvoyer les choses.
Si vous me le permettez,
je ne fâchons pas.
Je pense du rythme.
Finissez.
L'important, c'est pas le rythme en réalité. C'est ce qu'il y a dans le fond. Vous êtes en train de déconstruire un certain nombre de repères dans notre pays. Moi, je le dis, et vous le faites, que ce soit les communes, que ce soit la santé, que ce soit le code du travail. Bon, vous bouleversez les choses, vous dites que vous tenez vos promesses. Moi, je dis que vous déconstruisez un certain nombre de repères dans notre pays. De l'autre côté, il y a une série de privatisations qui s'annoncent sans aucune stratégie. On ne comprend pas la finalité des privatisations, je pense à ADP, que vous voulez poursuivre. Et puis, de l'autre côté, vous êtes en échec total, par exemple, à Mayotte. L'État est complètement absent. Donc, c'est très brouillon. Tout ça est très brouillon. Les parlementaires de La République En Marche ne participent pas du tout à la construction de la loi. Ils ont l'interdiction, d'ailleurs, de co-signer les propositions de loi d'autres collègues. C'est une vérité. Bah, c'est une vérité.
Les amendements sont
vous avez une note disant que vous n'avez pas le droit de cosigner pour l'émission de loi.
Les amendements
vous
sont collectifs chez nous.
Vous déposez très peu d'amendements.
C'est quoi votre problème avec la vérité,
monsieur Chenu? Mais écoutez, chacun ira voir sur nos députés.
Attendez, c'est pas un problème de technicien, c'est un problème politique qui nous est posé aujourd'hui.
C'est vous qui m'attaquez.
Est-ce qu'il y a question, Jean-Baptiste Djebbari.
C'est vous qui parlez du nombre d'amendements.
Jean-Baptiste, on ne voit pas beaucoup dans l'hémicycle.
Mais nous n'avons pas
beaucoup au débat.
Je suis parmi les 150 députés les plus actifs.
Il ne brille pas tout à fait par sa participation.
Nous sommes dans les députés, les 150 députés les plus actifs.
Donc vous arrêtez de faire des procès d'intention.
On sait qui sont les députés de La République En Marche. Chaque Français a pu voir l'état de leur capacité à construire la loi et de aussi l'aspect un peu folklorique, on va dire, de leur prise de parole.
On n'est pas dans la cour de récréation, là.
C'est ce qu'il y a dans les réformes très intéressant. C'est pas le rythme, c'est ce qu'il y a dans les réformes. Et ces réformes, elles déconstruisent notre pays.
Sur le discours de la méthode, il y a eu un incident au Sénat mercredi dernier. Je me tourne vers vous, Éliane Assassi. Je vais essayer de faire simple, il y a eu le gouvernement qui a bloqué une proposition de loi communiste, il y a des dispositifs pour ça, c'est l'article 44.3 de la Constitution, peu importe, visant à, donc c'était une proposition de loi du PCF, visant à revaloriser les petites retraites agricoles, et il y a eu blocage de la part du gouvernement. On a même vu Gérard Larcher, le président du Sénat, voler à votre secours. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a une sorte de bagarre entre le gouvernement Emmanuel Macron d'un côté, peut-être le fonctionnement du Parlement de l'autre?
Bon, écoutez, je ne sais pas si Gérard Larcher est venu au secours du groupe communiste. En tout cas, il est venu au secours du Sénat, puisque cette procédure du 44-3 est très peu utilisée dans le débat parlementaire. Elle a été utilisée 225 fois depuis 1959, mais seulement 6 fois sur des propositions de loi. Donc, on a assisté à un véritable coup de force du gouvernement sur une proposition de loi qui a fait l'unanimité à l'Assemblée nationale, puisqu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, et qui a fait l'unanimité à la Commission des affaires sociales au Sénat.
Bon,
de quoi s'agit-il? Parce que c'est
sortez
pas
de la
une...
technique, madame.
C'est pas une proposition de loi. Oui, mais il faut que les gens comprennent.
Bah oui,
c'est pas sur le nombre d'amendements,
allez-y.
Donc, que contient cette loi? Elle propose simplement de revaloriser les pensions des retraités agricoles qui touchent 871 euros par mois actuellement. Et la proposition de loi permet qu'ils en gagnent 976 euros. Avec un financement, avec une taxe additionnelle sur les transactions financières, c'est-à-dire que pour une action qui coûte 10 euros, on prélèverait non pas 3 centimes comme actuellement, mais 4 centimes avec cette proposition de loi. Donc, elle est financée. Donc, c'est un faux procès. Et je pense que le gouvernement, via cette proposition de loi, avec l'utilisation de du 44-3, a voulu donner une fessée au Sénat.
Une fessée au Sénat,
qui se rebelle contre le gouvernement sur la réforme des institutions et la réforme constitutionnelle. Parce qu'effectivement, le Sénat, dans sa majorité, refuse ce qui nous a été présenté, en tout cas qui m'a été présenté, par le Premier ministre Édouard Philippe, et notamment, on y revient, sur les attaques contre le droit d'amendement des parlementaires.
Allez, on marque une petite pause pour le retour de l'info avec Marie Rouarche, on se retrouve juste après.
Petits échanges tendus ce soir entre Russie et Grande-Bretagne. Theresa May juge très probable que Moscou soit derrière l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, parce que selon la première ministre britannique, la substance a été mise au point par la Russie. Provocation, répond Moscou, qui rejette ces accusations. Les États-Unis réclament un cessez-le-feu immédiat en Syrie. Ils vont déposer une nouvelle résolution en ce sens à l'ONU et ils dénoncent l'attitude de Moscou et de Damas, qui n'ont selon eux jamais eu l'intention d'appliquer la précédente trêve. L'offensive du régime syrien sur la Ghouta orientale a déjà fait plus de 1100 morts parmi les civils depuis le 18 février. Soupçons de crimes racistes aux États-Unis. 3 colis piégés ont explosé ces 10 derniers jours à Austin, la capitale du Texas. 2 personnes sont mortes, plusieurs autres sont blessées. Les victimes, des personnes noires et hispaniques prises pour cible à leur domicile. Bertrand Cantat renonce. L'ancien chanteur de Noir Désir ne donnera finalement aucun concert dans les festivals d'été. Il dit vouloir mettre fin à toutes les polémiques. Des lettres ouvertes, des pétitions ont accompagné l'annonce de son retour sur scène 15 ans après la mort de sa compagne Marie Trintignant sous ses coups. Le chanteur invoque sur Facebook le droit à la réinsertion. Il était le symbole de l'élégance française dont il a habillé Audrey Hepburn, Lorraine Bacall ou Elizabeth Taylor. Hubert de Givenchy est mort ce week-end à l'âge de 91 ans. Il a passé plus de 40 ans à la tête de la maison de haute couture qui portait son nom.
France Info.
21h-22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Nous évoquions les bagarres parlementaires. Gilles Bernstein.
Oui, vous avez dit tout à l'heure, madame, fabriquer la loi, ça prend du temps. Certes, mais moi, je vous le dis, fabriquer la loi, ça prend trop de temps. Alors, je ne sais pas si la réforme constitutionnelle, telle qu'elle se prépare, est la bonne ou non, mais ça prend trop de temps. Nous-mêmes, la démocratie à laquelle nous sommes attachés, tous ici autour de cette table, j'espère, impose que chaque citoyen voit assez rapidement les conséquences des choix qu'il a faits en votant aux élections présidentielles. Et là, nous, on est tous, on nous demande, mais est-ce que c'est dans le programme, est-ce que c'est pas dans le programme ? Ça prend tellement de temps que nous-mêmes, nous ne savons pas ce qui a été promis ou pas. Ça prend trop de temps. Je me rappelle de la loi Macron, où un conseiller du ministre des Finances, à l'époque, actuel président de la République, disait, pour ouvrir finalement trois lignes de car et ouvrir des magasins le dimanche, ça a pris 2 ans.
C'est important, monsieur Bronchen, c'est important quand même.
Laissez-moi terminer. Ça a pris 2 ans, c'est beaucoup trop longtemps. Alors, je vous le dis, pour que la démocratie ait encore un sens, il faut...
Il faut d'une manière ou d'une autre
raccourcir le temps parlementaire. Alors, est-ce que c'est moins de commissions ? Est-ce que c'est moins d'amendements ? Moins de navettes parlementaires ? Je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste de la procédure parlementaire, mais je vous le dis, pour la démocratie, il faut que les choix des citoyens se voient plus vite dans leurs actes.
C'est la publication des décrets.
Non, mais c'est pas
ce n'est pas le débat parlementaire.
Mais c'est le tout.
Non,
c'est
ce n'est pas le débat parlementaire qui prend du temps. C'est la publication des décrets qui prend du temps. C'est-à-dire que vous votez une loi, mais elle ne rentre pas en vie parce que les décrets ne sont pas prêts. Et si on devait faire la liste des lois dont les décrets ne sont pas encore publiés, ben oui, mais c'est pas le Parlement, les décrets. C'est pas
le Parlement. C'est les deux.
Je souscris à ce que dit la présidente Assassi, c'est vrai. On ne fait pas la loi en un clic. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et on s'en plaindrait, et nos compatriotes s'en plaindraient si c'était le cas. Mais moi, ce que je trouve de plus scandaleux dans cette réforme constitutionnelle, c'est la volonté manifeste de toujours réduire les droits de l'opposition, de faire taire l'opposition comme si c'était un danger d'avoir une opposition dans une démocratie. Vous disiez, est tous attachés à la démocratie. Bah oui, mais enfin, nous, on nous empêche de faire un groupe. La politique des ordonnances, le droit d'amendement qui se réduit. À quoi ça sert de faire ça ? De quoi ont-ils peur ? Vous avez une majorité très large. Alors, à moins que vous ne soyez pas d'accord entre vous, c'est tout à fait possible. Les problèmes. Mais par exemple, je donne un exemple. La semaine dernière, un texte du groupe communiste sur les marchands de sommeil. L'ensemble de l'hémicycle est d'accord avec le texte. Il n'est pas voté, vous le renvoyez, parce qu'il vient du groupe communiste. Eh bien, moi, ça ne me gênait pas de le voter parce que je pense que ça pouvait aller dans le bon sens. Voyez-vous ? Eh bien, vous avez une espèce d'obstruction, d'incapacité à considérer que l'apport de l'opposition participe de la démocratie. On n'est pas là pour bloquer, on est là pour construire la loi.
Sur l'ensemble des textes,
Mais pas du tout. Je viens de vous donner
On va laisser répondre Jean-Baptiste Djebbari.
Vous avez un temps consacré au débat à l'Assemblée nationale.
C'est incroyable. Bon, le clan de l'immobilisme est quand même bien identifié.
Donnez-nous vos heures de parole si vous n'en voulez pas.
Vous avez des textes qui passent 5 fois en commission et dans l'hémicycle. Les mêmes textes qui sont débattus 5 fois. Les mêmes amendements qui sont débattus plusieurs fois. Souvent identique.
En quoi la quantité
fait le débat ?
Vous ne déposez jamais d'amendement en commission.
On parle pas de votre groupe, madame. On parle de l'ensemble.
On ne dépose pas d'amendement en commission non plus. Vous mentez.
Mais vous ne connaissez pas la procédure parlementaire. C'est n'importe quoi ce qu'on raconte.
Vous, par contre, vous connaissez pas la réglementaire. Vous auriez fait un groupe.
Vous racontez n'importe quoi. On va faire un groupe avec cette députée, monsieur.
On va laisser terminer Jean-Baptiste Djebbari.
Comment on peut dire aujourd'hui que le temps du Parlement correspond à la vitesse ou à l'exigence de la société? Ça ne marche pas,
c'est
votre truc.
Donc,
c'est une évidence. Ça ne correspond pas à la vitesse de la société. C'est pas fait pour
la société, elle va vite. Parce qu'aujourd'hui, il faut répondre. Il faut que les effets soient sensibles.
Pardonnez-moi. Sous la 5e République, est-ce qu'au fond, l'exécutif n'a pas toujours eu une tentation un petit peu hégémonique qui a fait plier le Parlement, Assemblée nationale d'un côté, bicamérisme, et c'est là de l'autre.
L'inflation normative, on a de plus en plus, on a de plus en plus de lois, de plus en plus de décrets. Le débat sur la loi sur l'IVG, par exemple, une trentaine d'heures. Les ordonnances de travail,
qu'est-ce que vous redoutez en limitant le droit d'amendement ?
Il y a une inflation.
Mais on
ne redoute rien. D'abord, c'est une proposition. Et vous savez qui fait la loi, en fait, c'est le Sénat et l'Assemblée. On va en discuter. Et à la fin, ça passera peut-être au Congrès.
Est-ce
est-ce que la bonne idée, cette drôle d'idée de faire taire l'opposition. Vous savez que l'opposition, elle a un rôle
dans toute démocratie. On vous entend bruyamment partout, l'opposition Chenu, existe.
Mais c'est notre rôle, monsieur. Nous portons d'autres aspirations.
Vous l'exercez dans les médias, dans les médias, bruyamment.
Il faut que vous acceptiez ça. Ce n'est pas qu'une question d'opposition, c'est une question de pluralisme. C'est-à-dire que les annonces qui ont été faites par Édouard Philippe mettent à bas le pluralisme. Et le pluralisme traverse notre pays. Et ce n'est pas qu'une question de...
Qui va faire la réforme constitutionnelle ?
Comment ?
Qui va faire la réforme constitutionnelle ? C'est nous, non ? C'est nous qui allons débattre à l'Assemblée nationale. C'est nous qui, à la fin, allons voter au Congrès.
Bah, pourquoi limiter les droits d'opposition ?
Donc, du coup, on a deux mois. On a deux mois pour en discuter et à la fin, on tranchera.
Gilles Bernstein, pour conclure le débat...
Vous connaissez pas la procédure
parlementaire a du plomb dans l'aile quand on assiste à nos échanges, là ?
Attendez,
laissez parler Gilles Bernstein.
Je pense qu'on s'achemine vers un bras de fer entre le gouvernement et le Sénat en la personne de Gérard Larcher.
Pas qu'aujourd'hui,
l'hypothèse... Enfin, quand on parle aux différents responsables de La République En Marche, est-ce qu'il faut aller au référendum ou pas, tous ont plutôt tendance à dire oui. Donc moi, je ne serais pas surpris que, voilà, qu'on finisse par... Pas forcément, pour la révision constitutionnelle, mais un référendum d'une manière ou d'une autre ne me paraît pas maintenant totalement exclu.
Allez, merci à vous quatre, à vous trois, et avec Gilles Bernstein, Éliane Assassi, merci à vous.
Merci à vous.
Sébastien Chenu et Jean-Baptiste Djebbari. Je crois qu'il y aura beaucoup d'émissions où il sera question de cette révision constitutionnelle et du débat démocratique dans ce pays. À demain pour une toute nouvelle édition de Tout est politique sur France Info.